Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre des Montpelliéraines et des Montpelliérains.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.
Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. Depuis le début de cette émission, jamais un sujet aussi grave avait été traité. En effet, nous allons parler de l'Iran, de la situation en Iran, en écoutant deux Iraniens, un couple, Soheila Rahimi et Ezam Hossainzadeh, l'un et l'autre avocat, installés avec leur fils à Montpellier depuis 2018. Pardon, depuis 2018. C'est émotion. Ils avaient à Téhéran un cabinet de droit des affaires international et travaillaient également en faveur des droits de l'homme. C'est la question des droits humains en Iran qui va constituer le thème principal, le fil conducteur de l'émission. Merci l'un et l'autre d'avoir répondu à mon invitation. Mais d'abord, respectons la formule de l'émission, racontez-nous votre Montpellier et dites-nous donc pourquoi avez-vous quitté l'Iran, dans quelles conditions et qu'est-ce qui vous a conduit à venir vous installer à Montpellier.
Bonjour, merci de nous avoir invités. Comme vous avez mentionné, on est en France depuis fin 2018. Mon épouse Soheila et moi, nous étions avocats en Iran. Et on travaillait sur le droit, sur le sujet de droit des affaires internationales, mais en parallèle, on avait beaucoup de soucis concernant la question du droit de l'homme. On écrivait des articles. Moi, j'ai passé une formation, un scholarship boursier délivré par le ministère étranger d'Allemagne. Et je suis allé à Berlin pour passer une formation en droit de l'homme. Après, je suis rentré. On avait beaucoup de problèmes parce qu'en essentiel, on était en contact avec les étrangers parce qu'on donnait des conseils.
Ah, ça a attiré l'attention.
Ah oui, normalement, ça attire l'attention. Et on préparait le rapport pour la Banque mondiale sur la question de l'inégalité entre hommes et femmes. La question de l'état de droit en Iran, et on travaillait avec plusieurs ONG, mais en secret. C'était pas un.
Bien sûr.
Oui. On était sur place, on était avocat. Les ONG, les organisations internationales faisaient nous confiance parce qu'on était avocat en Iran. Et après, on avait un problème. On a été menacé par les agents secrets du régime.
Alors, menacé de quoi? D'être emprisonné, d'être poursuivi,
d'être arrêté, mais j'étais sûr que si ils m'ont arrêté, ça serait très grave.
Bien
que
sûr.
Par exemple, prison, je sais pas, ou condamnation à mort, peut-être sous accusation de espionnage, des choses comme ça. Et on a contacté l'ambassade de France à Téhéran. Et l'ambassade nous a aidé très vite. Dans un mois, on a pu sortir l'Iran.
C'est-à-dire que la représentation française en Iran a fait ce qu'on pouvait attendre d'elle à ce moment-là.
C'était très, très utile pour nous. Oui.
D'accord. Et pourquoi la France? Ça pouvait être l'Allemagne, par exemple.
La France est le seul pays qui donne, depuis, je crois, que 18e siècle, il donne cette possibilité de demander d'asile.
Le droit d'asile, qu'il est reconnu.
Exactement, hors son territoire. Dehors de son territoire. Normalement, le pays dit que vous pouvez entrer dans notre territoire et après demander d'asile.
C'est ça.
Oui, la France est le seul pays qui...
Voilà. Donc, votre dossier a été examiné par la Cour nationale du droit d'asile et vous avez obtenu le droit d'asile assez facilement parce que les délais sont longs. Là.
Oui, moi j'ai donné un interview à l'ambassade de France à Téhéran. Après, ils ont envoyé notre dossier à Paris, je crois que siège du ministère des Étrangers. Après, ils nous ont accordé un visa D. Illimité,
d'accord.
Qui est normalement destiné aux aux avocats, aux écrivains, d'accord, aux journalistes en danger.
Avec cette protection particulière.
Exactement.
Donc, vous arrivez à Paris, et puis Montpellier, pourquoi Montpellier? Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, c'était très, très par hasard. D'abord, on est arrivé à Paris, et nous mis dans un centre d'accueil de réfugiés dans un banlieue parisien qui s'appelle Terre d'Asile.
Oui.
Et après, ils nous ont accueillis. On y restait à peu près un mois et demi. Après, en fait, ils s'occupaient de dispatcher les demandeurs d'asile et les réfugiés en fonction de la place disponible dans le centre d'accueil de demandeurs d'asile en province, dans toutes les villes de France.
Oui,
exactement. C'était très, très par hasard. En fait, les CADA, le centre d'accueil de demandeurs d'asile ici à Montpellier, ils avaient dit que justement, on a trois places disponibles. Et après, ils nous...
D'accord. Trois places pour des hébergements, justement.
Oui, c'est pour ça. Hébergement. Oui.
D'accord.
Exactement.
Il y avait aussi un accompagnement social.
Oui.
D'accord.
Il y avait
concernant
un
Donc, bon, un mot rapide, parce que c'est un sujet, bien sûr, qui est un sujet très fort en France, la question de l'accueil des migrants, d'où qu'ils viennent. Vous considérez que cet accueil s'est fait dans de bonnes conditions à Paris, sur le plan national, et ici à Montpellier, pour que vous puissiez... poser votre sac, je dirais, dans des conditions économiques.
Bien sûr, toutes ces procédures de zéro, de ce jour-là qu'on a demandé à l'ambassade de France, et jusqu'ici, c'était magnifique.
D'accord.
Parce que c'était une opportunité pour fuir le danger.
Voilà.
Mais en même temps, on peut dire qu'il y avait, certains défauts dans cette procédure. Il pourrait être un peu court, un peu plus...
Oui, c'est ce qu'on dit, que les délais sont de très...
Parce qu'on a attendu un an et demi.
D'accord. Ah oui.
Ouais.
Après, je ne dirais pas que pour tout le monde, c'est le cas, parce qu'on était tous les deux avocats, on comprenait les démarches et tout. Mais pour les gens normaux, c'est très, très compliqué, qu'il faut quand même contacter avec les assistantes sociales, qui normalement... Et ils ne parlent pas notre langue, du coup c'est très très compliqué. Et au niveau de l'enseignement, parce que quand on est arrivé, on ne parlait pas du tout le français. Du coup, il nous fallait d'apprendre d'abord la langue.
Bien sûr.
Et puis, c'était vraiment, il n'y a pas grand chose. En fait, il n'y a pas une disposition concrète pour apprendre la langue pour les demandeurs d'asile. Il y a au fait qu'ils proposent les cours de français, mais ils ne sont pas très, très efficaces, en fait. Les immigrants, en sortant de cette cours, ils ne sont pas capables de parler et de communiquer correctement en français.
Donc, de trouver du travail.
Exactement.
On ne dit pas ça juste pour nous, c'est parce que si la France accueille les étrangers qui ne peuvent pas parler la langue, qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent pas trouver le travail, qui ne peuvent pas intégrer dans la société, vous allez voir certains gens qui habitent entre nous et qui sont complètement étrangers, vraiment étrangers dans ce sens. C'est pour ça qu'il est important l'intégration.
Ils seront un fardeau pour la société aussi, parce qu'on suppose que les ressources humaines, plutôt jeunes, qui arrivent en France, elles peuvent s'intégrer et travailler et produire des effets économiques pour la société. Sinon,
c'est ça. Travailler, payer des impôts.
Oui, et la population en plus, qu'ils ne travaillent pas.
Bien sûr.
Oui.
Alors, un petit mot avant de parler de la situation en Iran. Un mot sur la communauté iranienne, enfin sur les Iraniens qui vivent à Montpellier. Vous pouvez, en grand trait, nous dire qui ils sont, qui elles sont.
Oui. En fait, il y a principalement trois générations des Iraniennes ici à Montpellier. Ceux qui ont parti le pays après la révolution de 1979, après la révolution islamique, en fait, ils étaient obligés de quitter le pays. Et par la suite, il y a des gens qui sont arrivés ici en tant qu'étudiants, et puis ils ont continué à travailler en tant que médecins, avocats. Et puis, il y a une nouvelle génération qui sont vraiment arrivées depuis 2-3 ans, parce que la situation de l'Iran, c'est vraiment... ça s'est dégradé.
Parce que son économique et politique.
Oui, économique, politique, au niveau de liberté individuelle aussi, qui vraiment met en question la situation de jeunes générations qui ne sont pas du tout en phase avec les convictions des Mollahs. En fait, ils sont obligés de quitter le pays parce que, vous savez, c'est très, très difficile de changer la situation, surtout tout de suite. C'est pour ça qu'ils préfèrent, pour les familles, ils ont des moyens, ils préfèrent d'envoyer voilà. leurs enfants.
Il faut des
enfants.
Moyens et puis ils en
Exactement.
Sont.
Exactement.
Voilà. Et c'est des jeunes souvent, mais qui ont fait des études, on dirait, souvent
oui.
qui sont éduqués.
Beaucoup de scientifiques, ouais. on sait qu'ils sont à Sirat, par exemple, il y a 4-5 ouais. scientifiques,
chercheurs,
les chercheurs, les scientifiques plutôt, qu'ils préfèrent travailler ici en France.
Bien, merci. Alors, on en vient à la situation en Iran. Comme beaucoup de nos auditeurs, j'imagine, le savent, tout a commencé le 16 septembre quand une jeune femme de 22 ans, Mahsa Amini, est morte dans un hôpital de Téhéran 3 jours après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour n'avoir pas correctement respecté le port du voile. Alors, il y a un mouvement, on y reviendra, qui a démarré, mais comment vous expliquez que cette contestation, parce qu'il y en avait eu d'autres dans les années antérieures, s'est développé si rapidement et si puissamment, voilà, parce que c'est très frappant, je dirais, on verra comment on en est aujourd'hui, mais cet événement qui était grave mais isolé a donné une espèce de... Voilà, était l'étincelle animée qui a mis le feu. Quoi.
Oui, en fait, parce que c'est pas le seul mouvement en Iran. Et le peuple iranien a essayé plusieurs fois de renverser ce régime dans le... 43 années après la révolution islamique.
C'est depuis l'arrivée de Khomeini au pouvoir, il y a eu
oui.
plusieurs formes
plusieurs,
de contestation très
plusieurs,
fortes.
Très fort. Et chaque fois, il a été réprimé par le régime.
Plusieurs milliers de morts.
Plusieurs, oui. Par exemple, 10 ans après la révolution, le système judiciaire de la République islamique a exécuté au minimum 5 000 militant de gauche qui est maintenant qui est Moudjahidine en France. Et après, 10 ans après, il y avait un mouvement étudiant qui a été déclenché à l'université de Téhéran et plusieurs universités. 10 ans après, après l'élection de après l'élection de 2009, que le candidat réformiste a été emprisonné dans sa maison jusqu'ici, jusqu'à plus de 14 ans, je crois. Et le dernier mouvement, en fin 2019, il y avait aussi une autre révolte très, très forte en Iran. On était à Montpellier, on était très actifs sur les réseaux sociaux, sur les télévisions et médias d'opposants. 1500 personnes ont été tuées dans les rues, selon Reuters. Et après, on voit cette quasi-révolution qui continue.
Voilà. Ouais. Alors, on voit bien que, bon, il y a eu des phénomènes très importants, hein, qui n'ont pas eu de débouchés politiques importants, mais qui ont montré quand même ce que pouvait être la force de l'opposition au régime actuel. Alors, parlons quand même de l'actualité, c'est que, bon, cette répression en Iran, bon, a pris de l'ampleur. Il y a eu au moins 2 exécutions, il y a au moins 10 de personnes, des jeunes souvent, qui ont été condamnés à mort. Mmh. Il y a aussi des manifestants qui sont tués dans les rues, comme il y a quelques années. Vous pouvez nous en dire plus là, sur ce qu'il y a ce jour, parce que bon, les informations, j'imagine, ne sont pas toujours faciles à rassembler, à vérifier, de telle sorte qu'on ait une vue aussi exacte que possible de cette répression qu'on ne voit que lointainement, je dirais, avec nos yeux, je dirais, de Français ou de Françaises. Oui. Allez, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la violence de cette répression et de ce qu'on peut craindre qu'elle se poursuive?
En fait, écoutez, dans cette situation, en fait, le régime envisage 2 solutions, à mon avis. On envisage soit il doit répondre aux revendications légitimes de son peuple, iraniennes, surtout les femmes qui ont leur en fait droit fondamental et leur en fait liberté individuelle, liberté économique a été bafouée pendant 40 ans. Les revendications de femmes en Iran viennent de très très loin en fait.
Justement.
Et deuxième hypothèse, c'est la répression en fait. C'est la répression dans la mesure où le régime dit que je ne vais pas donner la réponse favorable à vos revendications. Donc, il est obligé de montrer son violence inaudite et réprimer, en fait, supprimer plutôt les manifestants, les opposants de régime et leur menacer, même s'ils sont à l'intérieur, à l'extérieur du pays, même aux étrangers. Souvent, les ministères des affaires étrangères, ministères des affaires secrets et tout, ils menacent en fait même les opposants qu'ils ont à l'extérieur du pays, ils ont à l'étranger en disant que on va condamner, on va les condamner, on va condamner leur famille. Ils me menacent toujours en fait. Et les gens qui sont sur place, ils sont très très en danger, surtout la situation des détenus qui est très très critique.
Juste concernant les chiffres et la vérification des chiffres, pour le moment, on a 500 personnes qui ont été tuées dans les rues.
Oui, j'ai trouvé 500.
Plus de 18 000 détenus.
500 tués, donc une soixantaine d'enfants.
Ouais.
Oui.
67 de mémoire, en tout cas, les derniers chiffres que j'ai vus. C'est-à-dire que ces enfants, ils sont tués dans la rue.
Parce que les agents du régime tirent de même... tirer à balle, c'est illégitime, c'est pas légal.
Ouais.
Même dans cette façon, ils tirent sur les manifestants de manière arbitraire.
C'est ça.
Et des fois, ils visent les personnes innocentes qui sont juste passagers dans les roues pour transmettre la peur pour que les gens ne sortent pas de chez eux.
C'est ça, c'est-à-dire que la méthode de la terreur que vous disiez avec les exécutions, enfin, les condamnations récentes, et cetera, c'est dire qu'on terrorise pour que le peuple se taise.
Exactement, parce que c'est au niveau psychologique, c'est une façon de dégoûter les gens, dégoûter les manifestants, dégoûter les opposants de régime. En fait, ils vont dire... Bon, en fait, le résultat de cette révolte, c'est tellement grave et tellement, en fait, le régime envisage toutes les sortes de répression. Du coup, à partir d'un moment, les gens, les manifestants, ils sont très, très dégoûtés, ils sont découragés parce qu'ils voient que ça touche les gens innocents, les enfants de bas âge, 6 ans, 7 ans. Les images, ils sont affreux, vraiment, il n'y a pas d'explication.
Ce que vous décrivez bien, là, ça peut produire deux types de réactions. C'est trop, je n'en peux plus, je protège ma famille, je ne vais plus manifester. Deuxième hypothèse, à contrario, ça accroît ma révolte, ça accroît, quel que soit le en sachant que je prends un risque, la capacité à manifester mon opposition sous différentes formes, parce qu'il n'y a pas que les manifestations, bien sûr.
C'est exactement le régime a fait, parce que si vous suivez la vague de manifestations jusqu'à 30 septembre. Il y avait grandes manifestations dans plus de 100 villes. Mais le 30 septembre, ils ont tué plusieurs personnes. Juste 100 manifestants à la ville de Baloutchistan, qui appartient à l'ethnie baloutche, et plus de 30 en Kurdistan, la région kurde, et aussi dans autres villes. C'est pour ça qu'après 30 septembre, les manifestations un peu a été réduites, parce que le niveau de violence était...
Bien sûr, ça fait peur.
Catastrophe, oui. C'est pour ça. Et juste concernant la vérification des chiffres, on a plusieurs ONG à l'étranger, qui sont basés à l'étranger, aux États-Unis, en Norvège, Angleterre, France, comme la nôtre, ils sont en contact avec des détenus politiques en plusieurs prisons, et ils vérifient ces informations, surtout les informations de détenus, avec ces prisonniers politiques. D'accord. Et aussi, il y a plusieurs médecins qui appellent, qui envoient un petit message à cette organisation en disant que telle ou telle personne, ils ont été tués dans les rues et je peux vous confier, vous faites la confiance en disant leur nom.
D'accord.
Ça se passe tout en confiance, mais la vérification est très correcte.
Bien sûr. Alors, je vais vous tourner vers vous, madame, parce que, comme on le sait, le cri de ralliement de la manifestation est « Femme, vie, liberté ». Pourquoi, d'une manière tout à fait inédite, en tout cas par son ampleur, les femmes sont au premier rang de la révolte, notamment avec, ne portant pas le voile ou en se coupant les cheveux? Qu'est-ce qui explique la force, et qui se perpétue, semble-t-il, de la manière dont les femmes se mobilisent?
En fait, depuis la révolution iranienne en 1979, peut-être les femmes...
La révolution iranienne, ça veut dire c'est l'arrivée de Khomeini au pouvoir,
oui,
et je dis ça,
oui,
les Français s'y retrouvent.
Oui. Et après, les femmes, elles étaient vraiment plusieurs premiers groupes qui ont fait une grande manifestation le 8 mars 1979, attirant vraiment en protestant le voile imposé.
D'accord, le jour de la Journée internationale des femmes.
Des femmes, oui, exactement. Ils ont organisé une grande manifestation pour contester le voile obligatoire. Mais après la révolution iranienne, il y avait tout de suite une sorte de guerre civile. Après, il y avait la guerre entre l'Iran et l'Irak. Du coup, les événements internationaux, les nationaux, après, c'était tellement grave que les revendications de femmes, vraiment, étaient une question subsidiaire. Du coup, les femmes n'arrivaient pas à vraiment changer la situation, mais elles souffraient toujours cette situation parce que les Mollahs, après arriver au pouvoir, en fait, ils ont changé la loi. La loi, surtout au cours de la famille qui a beaucoup, beaucoup changé, ils ont rétabli la notion de chef de famille. Du coup, les hommes étaient chefs de famille. Les hommes qui décidaient est-ce que les femmes peuvent travailler ou les femmes, il n'y avait pas droit de garde. En fait, il y avait beaucoup, beaucoup de discrimination à l'envers de femmes, surtout sur droit de succession, l'assurance, et dans tous les domaines, en fait, touchait la situation de droit des femmes en Iran qui a été vraiment se dégradée depuis la révolution iranienne.
Donc,
les femmes étaient tout à fait en conscience de cette situation.
Donc, une dépendance des femmes accrue.
Oui.
Une mainmise du patriarcat, disons, sur la vie des femmes, dans la vie quotidienne, dans la relation à l'intérieur de la famille, etc.
Mais avant la révolution, alors qu'avant la révolution iranienne, vraiment, même après la révolution, la moitié des étudiants à l'université, ils sont des femmes. Et les femmes en Iran sont très, très cultivées. Ça veut dire qu'ils savent leurs droits, en fait. Ils savent leurs droits, sauf que la répression est tellement violente qu'en fait, elles n'arrivaient pas à changer leur situation. Et la situation mondiale aussi n'était pas très, très favorable. Mais auparavant, avant la révolution iranienne, par exemple, les femmes, on avait le droit de vote pour les femmes à peu près dans les mêmes années qu'en France. Vous savez, même il y avait des assistants maternels pour les femmes qui travaillaient. Du coup, la situation, la liberté individuelle et tout, on était tout à fait en phase avec les changements mondiaux au niveau des droits de femmes. Je ne peux pas dire que c'était extraordinaire, mais on était quand même en phase avec les pays occidentaux, avec les autres pays. Mais par exemple, aujourd'hui en Arabie Saoudite, il n'y a pas droit de vote, mais il y a 70 ans qu'on a droit de vote pour les femmes, on a droit de travailler et tout. Et le régime, avant la révolution, avait l'intention vraiment de faire participer les femmes dans le développement économique de la
D'accord.
société, parce qu'ils avaient rendu compte que sans la moitié de la population, on ne va pas arriver de changer le système économique et social.
D'accord. Donc on comprend bien que c'est le niveau d'éducation des femmes, le niveau de conscience de leur situation qui explique ça. Et les hommes, pour le coup, les hommes ont suivi en quelque sorte, en tout cas ont brillé le pas, pour dire une réaction un peu de monde, c'est nous qui décidons.
Oui, mais les hommes, ils n'ont pas aussi ces situations imposées, un très très une pression très très grave au niveau économique, social, sur les hommes aussi. Parce que les femmes, elles étaient dépendantes, soit leur mari, soit leur père et leur frère, et doivent faire à telle sorte que chacun puisse se débrouiller et ne pas être dans une situation de dépendance.
Alors cet aspect-là, bon, un peu complexe, hein, de niveau d'éducation, mais de situation économique et sociale difficile, on en a un peu parlé d'ailleurs, mais ça pèse bien entendu sur la vie des gens et sur les conditions dans lesquelles ils veulent que ça change, quoi. Hein.
Juste concernant la participation des femmes, qui est vraiment magnifique. Je crois qu'on avait la discrimination contre les femmes depuis 43 ans. Mais pourquoi les femmes, elles ont décidé de participer? Parce que grâce aux femmes militantes, comme Nasrin Soutoudeh, comme Massi Al-Nejad, comme Shadi Sadr, comme Nagesh Mohammadi, il y a plusieurs femmes qui ont pris la tête de
des figures, 20
ans. Oui, exactement. C'est pour ça. Et aussi, vous avez la nouvelle génération des garçons et des filles qui ont complètement coupé d'idéologie islamiste de ce régime. Et ils sont présents sur les réseaux sociaux. Ils peuvent avoir des informations sur la façon de vivre français, comme un fille en France vit en liberté, il va aux boîtes de nuit, il va à l'université, il travaille indépendamment. Et c'est pour ça qu'ils ont... Ils ont décidé de participer très...
D'accord. Voilà. Et on a vu des images, notamment des étudiants qui abattaient la cloison qui séparait les femmes et les hommes dans une université. C'était la forme la plus visible. Hein, mettons à bas ces barrières. Quoi.
Exactement, oui.
Alors, une autre question encore, parce que, bon, bien évidemment, les Français, leur niveau d'information, de connaissance du pays est faible. On va essayer de le compenser un petit peu aujourd'hui. Quelles sont les fausses idées sur l'Iran, quand vous rencontrez des Français, que vous pouvez nous dire, pour mettre fin, je dirais, à des choses erronées qui, bon, sont de votre part, mais un peu agaçantes, mais peut-être compréhensibles, hein, parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a, au-delà de la distance géographique, il y a une distance culturelle, bien sûr, avec l'Iran, qui, me semble-t-il, explique cette méconnaissance ou cette ignorance.
Je pense, en tout cas... Je me permets de dire que vraiment, parfois, les Français, ils ont, surtout la nouvelle génération, ils ont moins d'informations sur l'autre pays. Ils sont très concentrés sur la France et peut-être sur les États-Unis.
Oui, sur les pays anglo-saxons.
Anglo-saxons, plutôt.
Ouais.
Mais pas sur l'autre pays. En fait, il y a à peu près 200 pays dans le monde chaque pays a sa culture, sa civilisation. Du coup, tous les pays, à mon sens, ont leur intérêt à connaître. L'Iran, en tant que, surtout comme par exemple, il y a 3-4 grandes civilisations dans le monde, civilisation indienne, chinoise, iranienne et la civilisation romaine. Du coup, ça fait partie de la civilisation qu'il faudrait connaître. Et je suis parfois étonnée par les informations que j'entends, parce que j'entends par exemple que l'Iran, c'est un pays pauvre, et parfois ils m'ont demandé est-ce que tu peux travailler avec un ordinateur, par exemple.
Comme si vous viviez sous des tentes.
Alors que l'Iran, c'est le troisième producteur de pétrole, c'est bien entendu, c'est un pays très très riche, sauf qu'il y a le problème politique est très très grave, et les Mollahs, ils sont très bien armés et bien riches, et on n'arrive pas à leur... comment on dit?
Juste concernant cette question, je me souviens le premier jour que j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats ici en France, à Paris, ils m'ont posé plusieurs fois cette question: est-ce que tu t'en sors? de PowerPoint et de Excel. Bah, c'est quelque chose qu'on raconte. Et aussi, il faut pas oublier que la première charte des droits de l'homme a été écrite par les Iraniens.
Ah oui.
2500. Ah oui. Il y a 2500. Le Cyrus, notre roi. Moi, je ne suis pas royaliste, hein, mais c'était une partie de l'histoire. Il a écrit. Et cette déclaration est gardée au musée de Londres.
D'accord.
Pour le moment, oui.
D'accord. Ouais. Alors, on va terminer cette mise au point historique en remettant les pendules de l'histoire à l'heure. Pour finir, je donne une adresse mail, mais on la mettra sur le site la présente de l'émission, pour ceux et celles d'entre vous, amis auditeurs, auditrices, qui voudraient manifester leur solidarité. C'est info@iranoftheworld.org. Je vous remercie beaucoup l'un et l'autre de votre contribution. Et puis, j'espère qu'on aura des meilleures nouvelles de l'Iran dans les semaines et mois qui viennent. Mais il y a encore une fois beaucoup de raisons de s'inquiéter. Merci à vous.
Merci de votre invitation.
Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
C'était Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès sur Divergence FM.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.